Donc, je reprends. On a expliqué que nous avons, de manière générale, d'accord, pour ceux qui n'étaient pas là, je rappelle, nous avons trois niveaux. Retenez bien ces trois noms-là parce que ça va revenir plusieurs fois dans le cours. D'accord, c'est pas qu'on va faire les travaux pratiques, mais ça va revenir plusieurs fois dans le cours. Le Zohar, il dit comme ça. Le Zohar, il dit que chaque chose qui nous entoure, il doit rentrer forcément dans une des trois catégories. Soit c'est quelque chose qui est de la Kdusha, soit c'est quelque chose qui est du mal absolu, soit c'est quelque chose qui est neutre. Mais ce qui est curieux, c'est quoi? C'est qu'on remarque que le Zohar, quand il veut parler du mal, il appelle ça une écorce. C'est bizarre comme terme. Pourquoi t'appelles ça une écorce? Pourquoi t'appelles pas ça directement le mal? Je sais pas, c'est le seul terme que t'as trouvé.
Parce que c'est quelque chose que l'on peut enlever éventuellement.
C'est quoi une écorce?
Ça englobe.
Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que ce qui est à l'intérieur est bon?
Oui, ça peut, oui.
Non,
oui.
Est-ce qu'il y a du bon dans le cochon?
Oui.
Tout est bon dans le cochon.
C'est ça la question. Tu me dis c'est une écorce, mais qu'est-ce qu'un rapport avec une écorce? Tu me dis trois écorces, pac, pac, pac. Et tu me dis quand c'est Klipat Noga, quand c'est l'écorce moyenne, celle-là tu peux récupérer. Pourquoi tu appelles ça une écorce?
David Lechaim,
hein. D'accord.
C'est le terme, est-ce qu'il est approprié ou pas?
D'accord. Pourquoi l'écorce? Bonsoir, Lechaim.
J'ai négocié ton cours.
Alors écoutez bien.
L'écorce nous aime beaucoup.
Comme d'habitude chez les Juifs, pour répondre à une question, on va répondre avec une autre question. Vous remarquez que quand on dit, quand on veut dire qu'une chose est interdite en hébreu, comment on dit le mot interdit en hébreu? Assour. Et quand on veut dire que c'est permis, comment on dit?
Moutard.
D'accord? Assour, moutard. Maintenant, on va rentrer dans l'étymologie. Qu'est-ce que ça veut dire le mot assour? Qu'est-ce que ça veut dire le mot moutard? Vous allez voir qu'on va apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. On y va dans les mots. Cinquième ligne. Vezeh ou lachon assour. Assour en hébreu, ça veut dire quoi? Beit Assourim.
Une prison.
Une prison. D'accord? Assour, ça veut dire quoi? Les gens, ils traduisent assour par interdit. C'est une fausse traduction.
Enfermé.
D'accord? La vraie traduction de assour, c'est quoi?
En tôle.
C'est? Voilà, c'est là. On est là. Vezeh ou lachon issour. Tiens, t'es à la bonne page. Vezeh ou lachon issour. Cinquième ligne. Chaque clipa chora, là, oui?
Tu as dit Beit Assoura.
Non, ça j'explique à l'oral. J'ai dit, c'est quoi assour? On va faire un peu d'étymologie aujourd'hui. Assour, ça vient de la même racine que Beit Assourim. Beit Assourim, Beit Soar. Ça veut dire quoi Beit Assourim en hébreu? C'est une prison. Quand on dit qu'une chose est interdite, nous on traduit interdit, mais en vérité c'est une fausse traduction. En vérité, la vraie traduction de assour aurait dû être lié, enchaîné. Qui est enchaîné? Ça veut dire qu'en vérité, dans chaque chose qui existe dans le monde autour de nous, s'il existe, c'est qu'il y a une étincelle divine qui le fait vivre. Il n'y a rien dans ce monde autour de nous qui peut exister sans une étincelle et une énergie divine qui le fait vivre. D'accord? Même si tu vas à Ibiza, dans l'endroit le plus pire du monde, si cet endroit existe et qu'il n'est pas effondré, c'est parce que Dieu le fait tenir. Alors comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible que ça tienne? Comment c'est possible que Dieu accepte quelque chose comme ça? On est obligé de dire qu'il y a une énergie divine là-bas. Alors dans ce cas-là, c'est une énergie divine. Moi je dis, je vais aller la chercher. Tu me demandes d'aller chercher les étincelles divines qu'il y a dans le gâteau. D'accord? Je vais aller chercher les étincelles à Ibiza. Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous pensez? Ça serait sympathique, hein? Il y en a qui ont essayé.
D'ailleurs,
ils ont eu des problèmes. Alors pourquoi? Mais pourquoi un huileux non? Tu me dis que quand je mange un gâteau, quand je mange un cracker, je fais une bracha dessus. Pourquoi je fais la bracha? Pour récupérer l'étincelle. Tu es en train de me dire qu'il n'y a rien dans le monde qui existe qui n'a pas d'étincelle divine. Donc, je pose la question, je dis, dans ce cas-là, ça veut dire que tout devrait être permis. Après, c'est une question de tact. Est-ce que je sais le faire ou pas? Réponse du Zohar. D'accord? Le Zohar, vous savez, des fois, en un mot, il répond à la question. Il te dit, c'est très simple. Il te dit, tu as raison. Dans le fond, tu as raison. Chaque chose dans le monde devrait être récupérable. Mais il y a un problème. C'est qu'il y a des choses, d'accord, qui sont assour. C'est quoi assour en hébreu? Ça veut dire qu'ils sont enchaînés. Tu n'as pas la force de les faire sortir de prison. Donc, tu es bloqué. Tu perds ton temps. Ça veut pas dire qu'il y a personne à libérer. Il y a quelqu'un à libérer. Mais la prison est tellement forte, il y a des murailles tellement grandes autour que tu pourras pas aller récupérer. Donc on te dit ça sert à rien d'y aller là-bas, tu perds ton temps. Et tu vas souffrir à cause de ça.
Enchaîné à quoi?
D'accord? Alors, enchaîné par les forces du mal. Ça veut dire que il y a du bien, il y a une étincelle de Kdusha, mais elle est enchaînée dans le sens qu'elle est irrécupérable. Donc c'est pour ça qu'on te l'interdit. Donc vous comprenez qu'en hébreu, la traduction de assour, c'est pas interdit. La traduction de assour, c'est lié, enchaîné. Maintenant je continue. Moutard.
Non, moi, j'ai pas compris. Il y a une chose que j'arrive pas à comprendre.
Vas-y.
C'est enchaîné par les forces du mal. C'est quoi les forces du
mal? Enchaîné dans le sens, je t'expliquais. D'accord. Enchaîné, ça veut dire que Dieu ne nous donne pas la possibilité d'aller les chercher, de les libérer. On n'a pas l'équipement pour. Donc, ça sert à rien d'aller chercher. Comme le cochon. Vous rappelez, il y a quelques semaines, on avait dit que quand ma chère va venir.
On aura le droit de manger.
Comment on aura le droit de manger? Comment ce qui est interdit aujourd'hui? D'accord. Va être, et pas sans permis. Le Zohar, il dit que quand ma chère va venir, ça va être, les gens, ils chercheront à manger ça, il y aura des trucs particuliers. C'est très simple. C'est très simple. Pas du tout, pas du tout. La réponse est très simple. D'accord? Écoutez. La réponse est très simple. C'est que ce qui était assourd aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec l'équipement qu'on a, il y a des choses qui sont inaccessibles. Mais quand ma chère va venir, si ma chère qui me donne la force d'un bulldozer, et que je peux aller attaquer n'importe quelle prison, bah du coup, je peux aller chercher ce que je veux. Il n'y a pas de problème. C'est ça le sens, que quand ma chère viendra, ce sera moutard. Je vais continuer encore, je vais aller maintenant de l'autre sens. Quand on dit qu'une chose est permis, comment on dit permis en hébreu? Moutard. Moutard en hébreu, ça veut dire quoi?
Éther, non.
Alors, enfants. Ça veut dire quoi? D'où ça vient ce mot? Alors les gens, ils traduisent moutard par permis. Fausse traduction. J'ai pas dit que c'est faux.
Autorisé.
Mais si on voit dans l'étymologie, vous pouvez voir dans le dictionnaire en rentrant chez vous. Hein. Vous cherchez assour, bêta assourim et atara, matir, d'accord? Vous verrez, moutard, ça veut pas dire permis. Moutard, ça veut dire délié. Vous savez, dans les mélachot de Shabbat, les 39 travaux, un travail, c'est kosher, faire un nœud. L'achon, d'accord? Donc c'est quoi matir, d'accord? Matir, ça veut dire quoi? C'est celui qui défait un nœud. Shabbat, on a le droit ni de faire un nœud, ni de défaire un nœud. On est d'accord? Il a dit un bon exemple aussi, Shimon aussi, Atarat Nedarim. D'accord? Quand on arrive à la veille de Rosh Hashanah, on fait, c'est quoi Atarat Nedarim? Ça veut dire quoi, délier de ses vœux?
On se libère.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, normalement, lorsqu'il a un éder, il est enchaîné par ce néder.
C'est sûr.
Il est pris par ce néder, il est obligé de le faire. Je me suis engagé de le faire, je dois le faire. Quand on dit qu'on me délie de mon éder, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dorénavant, je ne suis plus prisonnier de ce néder. C'est ça le pchat.
Il faut rappeler que le mot « ne » vient du mot « néder » en français.
Bon. Alors, je continue. Bonsoir. Ça arrive, ça va?
C'est quoi, tu lui donnes l'adresse de l'église ou quoi?
Alors, c'est bon? T'as trouvé ou pas un bon plan? Alors, donc, je continue. Donc, il dit comme ça. Il dit, quand on réfléchit, assour, ça veut dire quoi? Ça veut dire enchaîné. Moutard en hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire délié. Ça veut dire qu'en vérité, tout ce qu'on a dans le monde autour de nous, il y a une étincelle de Kedusha. Il n'y a pas de choses interdites et de choses permises. Ça n'existe pas, ça. Tout doit avoir de la Kedusha. Il n'y a pas de choses pures, il n'y a pas de choses impures. Ça n'existe pas. Seulement quoi? C'est quoi la différence? Il y a des choses qui sont déliées, il y a des choses qui sont liées. Il y a des choses qu'on peut accéder, il y a des choses qu'on ne peut pas accéder.
Et pourquoi on ne peut pas accéder?
C'est Dieu qui a décidé ça. Non, ça c'est notre... On n'est pas équipé pour. Nous, on est des soldats. Quand le général, il te dit, écoute... Cette rue ne passe pas, t'es pas équipé pour. Tu veux faire le malin, tu vas y aller, pas de problème, tu vas prendre sur la tête. Parce que t'es pas équipé pour. Tu comprends? Nous on a un général. Le soldat, il comprend pas toujours ce que le général dit. Mais quand le général te dit ne passe pas par cette rue, tu n'es pas équipé, c'est que je suis pas équipé. J'ai pas dit qu'il y a rien à chercher là-bas. Il doit avoir beaucoup, au contraire, dans les endroits interdits, c'est là où le plus à chercher.
Quand le général dit tu passes pas, c'est prison.
Vous savez, exactement.
Kouda.
Comme t'as dit tout à l'heure, Kouda. Regardez, on dit que c'est la prison. On dit que très souvent, les plus grandes étincelles divines se trouvent dans ce qui est interdit. Avec ça, l'Admour Hazaken dans le livre du Likutei Torah, donc l'Admour Hazaken c'est le même auteur que le Tanya, mais dans un autre livre, dans ses commentaires sur la paracha du Likutei Torah, il pose une question très forte. Il dit comment ça se fait que tous les événements majeurs qu'on a eu dans la Torah, comme par exemple la naissance de Mashiach, la bracha que Yitzhak Adonai Yaakov. C'est toujours gris. Ça veut dire, en vérité, c'est interdit ce qu'ils font. Yaakov, il a volé les brachot à son frère. Ouais. On est d'accord? La naissance de Mashiach, c'est venu par qui? C'est par l'union de Yehuda et Tamar. Alors bien sûr qu'on trouvera toujours des commentaires pour te dire qu'en vérité, c'était pas sûr à 100%, etc. David Ameller, de qui il descend? Ruth, d'où elle arrive?
Monsieur Rabino,
d'où elle arrive, Ruth? Un truc bizarre. Avec Boaz qui est venu. Elle est venue à la maison chez lui. D'accord. Il a vu dans la rue, il a dit, est-ce que tu veux dormir au fond de mon lit? Quoi, au fond de mon lit, elle dort? Mais elle n'est pas mariée avec, il ne la connaît même pas.
Ouais, mais l'origine, c'est encore pire que ça.
Mais il a donné
l'Immaculée Conception.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ah, écoutez, c'est une question que pose Edmond Razaken. Il dit, comment ça se fait que les plus grands événements qui marquent notre histoire, quand on veut savoir, par exemple, la naissance de Mashiach, la naissance du Ham Israël, les brachot du Ham Israël, des événements importants, d'accord? Ou bien même la naissance, la reprise des nations après Noir, c'est Noir, après le déluge. Ces nations, d'où elles sont venues? C'est des événements importants, ça. Et qu'est-ce qu'on voit? À chaque fois, c'est pas clair. Il y a des trucs ambigus. Donc, Edmond Razaken, il pose la question. Il dit, franchement, ça se fait pas. Tu veux donner la naissance de Mashiach? Quand on dit, vous savez, votre Mashiach, il vient d'une union d'une femme avec son beau-père. C'est un peu compliqué. On trouvera toujours des explications. Mais comment ça se fait? D'accord? De l'union de David et Bathsheba. D'accord? Alors, bien sûr, on trouvera toujours des commentaires. Je vais pas revenir sur cette histoire. On trouvera toujours des commentaires. Vous connaissez l'histoire de David et Bathsheba? D'accord? Enfin, vous connaissez. Il a envoyé son mari au front et il a récupéré sa femme. D'accord? Alors, on connaît, bien sûr, attention, la Gemara a dit, il faut pas dire qu'il a fauté, et qu'en vérité, il y avait des circonstances atténuantes, et qu'il y avait... Mais c'est quand même douteux. Donc, question de l'Admour Hazaken, il dit, comment ça se fait que tous les événements qui ont marqué notre histoire, il y a toujours des choses pas claires, c'est ambigu. Et il répond quelque chose de très puissant. Il dit parce qu'en vérité, les plus grandes étincelles de Kedusha sont attrapées par les forces du mal. Et des fois, écoutez bien ce qu'il dit, la seule manière d'aller les récupérer, c'est en utilisant la ruse, en faisant croire au mal que tu es de son côté, et à la dernière minute, tu l'attrapes. Mais attention, dis-le à Edmond Razaken, pour le faire, il faut être très fort. Il faut être un tzadik pour le faire.
Parce que sinon,
c'est pour ça que ces gens-là, on continue à les appeler tzadikim. Des gens comme Yehuda, des gens comme Yaakov Hatzadik, d'accord, Abraham Avinu. Il y a toujours des zones pas claires. Pourquoi on continue à les appeler tzadikim? Parce que justement, on est conscient qu'ils avaient la sensibilité de se dire qu'il y a quelque chose à récupérer et on est obligé de faire croire, entre guillemets, c'est un peu zor ce que je dis aujourd'hui, de faire croire, entre guillemets, au mal que tu travailles dans son côté. Et après, tu attrapes, après c'est bon. On trouvera toujours des manières de dire que c'était à moitié permis, mais c'est pas clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, on comprend maintenant que dans la vie, il n'y a pas pur, impur, interdit, permis. C'est pas ça. En vérité, le fond des choses, c'est quoi? C'est il y a ce qui est lié et il y a ce qui est délié. Maintenant, il y a des choses qui sont officiellement liées, mais si tu arrives à ruser, tu peux les délier. Mais il faut être de l'envergure, d'accord? Il faut être de l'envergure de tzadikim comme ça. Sinon, tu touches pas. Je vous donne un exemple. Regardez, un exemple très simple. Vous savez, le Rav Grossman, il a raconté, il a dit que, là, c'est un Rav très connu en Israël, il a dit quand il arrivait à la ville de Migdal HaEmek, il a dit, il a cherché la synagogue, il n'y avait pas de synagogue. Alors il dit, bon, où sont les jeunes? Parce qu'il était convaincu qu'avec qui on construit, avec les jeunes. Alors, c'est le responsable aujourd'hui des grandes institutions de Migdalor. Alors on lui dit, bah, les jeunes, ils sont en boîte de nuit. Maintenant, je sais pas si vous connaissez le Rav Grossman. Vous voyez le vêtement que j'ai Shabbat? Lui, il y en a un qui arrive jusqu'à là. Grande taille, comme ça. Le chapeau, chassid de chez chassid, c'est-à-dire, tu peux pas le rater. L'épée haute, comme ça. Il débarque comme ça en boîte de nuit.
Le rave des boîtes de nuit? Il s'appelle comme ça?
Je sais pas si c'est... Attends, écoute l'histoire.
Il débarque comme ça
en boîte de nuit. Les gens, ils le regardent. Au début, ils disent, tiens, il y a un rabbin, il est venu un peu se rincer les yeux. D'abord, il n'y avait pas de rabbin dans cette ville. Ça n'existait pas. C'est quelque chose qui n'existait pas. C'est une ville qui était un peu avant kibbutz. En fait, c'est une sorte de village qui s'est transformé progressivement en ville. Il n'y avait pas de rabbin. Et il le voit arriver comme ça. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi. Il a commencé à leur parler, etc. Et après, progressivement, dans la boîte de nuit, ils lui ont donné une pièce, parce qu'ils ont vu que ça dérangeait. Ils ont dit, écoutez, on vous donne une pièce, faites ce que vous voulez ici. Il avait cette pièce dans la boîte de nuit, dans laquelle il accueillait les jeunes. Il a commencé comme ça. Maintenant, moi, quand je lis cette histoire, je me dis, moi, j'ai pas cette envergure-là. Impossible, jamais on l'aurait fait. Seulement, c'est quelqu'un qui a une autre envergure. D'accord? Je vais vous raconter encore une autre histoire. On raconte qu'une fois, le Admour de Gour, le rabbi de Gour, il a vu ses chassidim. Vous savez, il y a un soir dans l'année où chez les chassidim...
Excusez-moi, est-ce que ça veut dire qu'il s'est dit, dans la boîte de nuit, il y a une présence divine?
Bien sûr,
ou,
non. Non, non,
ou
non.
Alors, je vais essayer de sortir.
Bien
ces
sûr,
gens,
il s'est dit, dans la, il s'est dit, de il s'est dit, les jeunes qui fréquentent la boîte de nuit, c'est des jeunes qui ont un potentiel exceptionnel. Il faut les récupérer.
On peut assimiler.
C'est là-bas qu'ils sont. Tu les récupères dehors, tu récupères pas grand chose. Donc lui, il s'est dit, je dois aller là-bas. Maintenant, moi, je l'aurais jamais fait. Mais c'est là-bas que ça se passe.
On peut assimiler la boîte de nuit à une clipa.
Exactement. D'accord. Exactement.
On est corse, ouais.
Ah, bien sûr, après, il devait être, ça veut dire, après, il devait être à un certain niveau, de faire attention à ce qu'il regarde, ce qu'il regarde pas. C'est très compliqué. D'accord.
C'est comme Abraham, ah oui, quand il est allé à Sodome.
Les Chabad, des fois, on fait un petit peu comme ça, mais pas aussi long que ça. Par exemple, quand j'étais, voilà. J'étais jeune homme, j'allais à Cannes. Mais à Cannes, tu vois, on, limite. C'est les limites, tu vois, c'est la limite. On est juste sur la limite.
Dans les années 80, ils sont passés au mono.
Alors écoute, voilà. Donc écoutez, c'est la limite. Ça veut dire quoi? Comment on peut dire quelque chose comme ça? Parce qu'en vérité, nous avons la Emouna, qu'il n'y a pas de permis et d'interdit. Nous avons la Emouna qu'il y a seulement ce qui est lié et ce qui est délié. C'est-à-dire ce qui est accessible et ce qui est inaccessible. Même dans ce qui est inaccessible, d'accord? Avec un peu de ruse, ça peut devenir accessible. Je vais vous raconter encore une autre histoire. Vous savez, chez les chassidim, et pas que chez les chassidim, dans le monde ashkenaz, il y a un soir dans l'année dans lequel on n'étudie pas. Ouais. C'est le soir du 25 décembre. D'ailleurs, cette année, quand c'était tombé, on n'avait pas fait le soir du 24 décembre. D'ailleurs, cette année, c'est tombé un lundi soir, on avait dû annuler le cours de Tania. Alors écoutez bien, pour annuler un cours de Tania, il en faut beaucoup.
On l'a pas annulé.
D'accord ?
On l'a reporté.
On l'a reporté, voilà, bon. Alors écoutez bien. D'accord ? Écoutez bien cette histoire. Une fois, le Admour de Gour, il vient voir ses chassidim, et il les voit le soir, donc ce fameux soir du 24 décembre, quand on n'a pas le droit d'étudier, qu'est-ce qu'ils font les chassidim? Ils jouent. D'accord? Non, pas flipper. Ils jouent des jeux en général, comme on veut toujours, s'il vous plaît.
Un poker à l'argent.
Comme on veut toujours se dire qu'il faut aiguiser notre esprit pour l'étude de la Torah. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent à des jeux, mais qui développent l'intellect. Par exemple, ils jouent aux échecs. À la Yeshiva, nous, on joue aux échecs. Ils jouent aux échecs, ils jouent aux dames. D'accord? Aux dames.
Pas bien, ça.
Alors, écoutez bien.
Il n'a pas dit à
peu près. Non, qui sait jouer aux dames ici? D'accord. Alors, comment ça marche, les dames?
Blanc et noir.
Attends, raconte-moi deux secondes. Comment ça marche? Tu avances en diagonale ou tu avances tout droit? D'accord. Et quand tu arrives au fond, qu'est-ce qui se passe?
Une dame.
Et un roi, qu'est-ce qu'il peut faire?
Une dame.
Le roi, c'est les échecs.
Il peut sauter en diagonale, mais autant de...
Alors, et qu'est-ce qu'il peut faire un roi?
Il peut faire plus qu'un parrain, toujours en diagonale, mais plus long, très long. Et après, sauter en arrière.
Il ne pas en même temps.
D'accord.
Il peut sauter en arrière.
Ça veut dire qu'il peut aller où il veut. On est d'accord? Bon, alors écoutez bien. Rabotaille, un peu de discipline, s'il vous plaît. D'accord? Alors, c'est très bien. Il leur a dit comme ça. Il leur a dit, vous avez remarqué ce jeu? Il leur a dit, je vais vous donner un enseignement dans la Avodat Hashem, un enseignement dans le service de Dieu. Il a dit, vous avez remarqué? Tant que tu n'es pas arrivé en haut, il y a des règles. Tu sautes, je crois qu'il faut. Tu sautes, c'est-à-dire, tu sautes un et tu bouffes celui sur lequel tu as sauté, c'est ça? D'accord, on est d'accord. Mais, une fois que tu es arrivé en haut, qu'est-ce qui se passe? Carte blanche et plus de règles. Eh bien, il leur a dit, je vous explique, c'est exactement la même chose qu'il y a entre un tzaddik et quelqu'un du peuple. Le tzaddik, c'est comme la dame. Nous, on est des gens du peuple. C'est-à-dire que nous, il y a des règles, il faut sauter, tu sautes un par un, tu fais pas le malin. Nous, on est des gens du peuple. Les tzaddikim, c'est comme la dame. Ça veut dire que la dame, une fois qu'elle arrive en haut, c'est pas qu'elle a plus de droits, c'est que elle a plus de marge. Ça veut dire qu'elle sait ce qu'elle fait. On estime que si une personne a pu arriver jusqu'en haut, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Donc, puisqu'il a pu arriver jusqu'en haut, on lui donne plus de marge qu'on donne aux autres personnes. Ben, il leur a dit, c'est la raison pour laquelle un tzaddik, il peut se permettre de toucher des zones grises. Des zones pas très claires. Que nous, on serait permis de le faire. Pourquoi? Parce qu'un tzaddik, il est arrivé en haut. Donc, vous voyez comment, tout dépend en vérité, est-ce que c'est assour ou est-ce que c'est moutard? Est-ce que c'est lié ou est-ce que c'est délié? Est-ce que c'est accessible ou est-ce que c'est inaccessible? On va lire ensemble dans les mots.
Oui. Il faut quand même rappeler que tous ces tzaddikims dont on parle, ils ont été les jouets de la Hashgacha Pratique. Ils n'ont pas fait volontairement ça.
Il y a un choix qui... Vous en connaissez, vous, beaucoup des tzaddikims qui prennent des femmes sur la rue et qu'une heure plus tard, c'est terminé?
Non, c'est marqué qu'il a envoyé un malard qui lui a... Un ange préposé à la concupiscence.
Une heure après. Il y a un problème. Ah oui, même pas une heure. Du premier coup. Oh. Oui, je suis sérieux. Ah ben écoutez, il faut dire les choses clairement.
Destin croisé.
Ouais, c'est extraordinaire. Après, c'est les voilà, il y en a qui disent qu'il a donné une bague avant, etc. Mais c'est, comme ils disent, c'est flou. D'accord. Si Sifter Khamu, il dit comme ça.
un mouchoir.
Il dit que quand il a donné le mouchoir, il n'est pas le kiddushin. Mais bon, voilà, je vous comprends. C'est pas. Ça se fait pas. C'est pas clair. Très bien.
Prenez un mouchoir comme ça, ils disent.
Il n'y a pas de témoin.
Donc, dans les mots.
Il faut des témoins pour faire le mouchoir.
Il
n'y
a pas de témoin pour faire le mouchoir.
C'est quoi le mouchoir? Non, il faut des témoins.
Non, il y en a qui disent que quand il a donné son mouchoir, il a donné ça en tant que pour faire la kiddushin. Bon. En tout cas, c'est pas le thème d'aujourd'hui. Ce que je voulais vous montrer, c'est que quand on est un tzaddik, on est comme la dame qui est en haut. Ça veut dire que on a plus de marge. C'est pour ça que quand on voit un tzaddik faire des choses qu'on ne comprend pas, il faut pas être choqué. D'accord. Des fois, tu vois des tzaddikins qui font des trucs que toi jamais t'aurais fait. Il se prend des permissions que toi jamais t'aurais fait. Pourquoi? Parce que quand on est un tzaddik, c'est autre chose.
Comme Rabbi Meir qui a été pour sauver sa belle.
Exactement.
Il est rentré parmi les.
Il est rentré parmi les. Exactement. C'est-à-dire quand on est un tzaddik, c'est une autre gamme, c'est une autre ligue. Alors on y va.
Ça, on a il dit,
maintenant, il dit, Vezeu, je suis à la cinquième ligne. Maintenant qu'on a bien expliqué, on va comprendre dans les mots. Ce que je vous ai dit, c'était dans deux lignes ici. Vezeu, lachon, assour. Avec ça, on comprend maintenant, qu'est-ce que ça veut dire assour? Rappelez-vous, l'arbre de la vie, l'arbre de la mort, et l'arbre du bien et de la, l'arbre du bien et du mal. Alors il dit, c'est quoi, en vérité, il n'y a pas de bien et de mal. Il y a lié et délié. Parce qu'en vérité, partout, il y a du bien récupéré. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de personnes bonnes et de personnes mauvaises. Il y a des gens qui sont plus accessibles et des gens qui sont moins accessibles. C'est tout. Il explique comme ça. Il dit, Vezé ou la chaîne assour. Ça veut dire quoi, assour? Chaque clipa shora alav. Ça veut dire que la clipa, les forces du mal, shora alav, elle réside sur lui. Vous avez remarqué que clipa en hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire une écorce. En vérité, je pense que pour bien comprendre ce qu'on devrait dire ici, on devrait traduire clipa pas par écorce, mais par armure. Une armure. Et bloquée. Ça veut dire que t'as beau essayer, tu vas te blesser, c'est dommage, tu vas te faire mal. Tu vas perdre des plumes. Donc, ve'eino yachol la'alot lema'ala, et qui ne peut pas monter en haut. Maintenant, il développe encore un autre point. Il te dit, quand on te dit qu'une chose est liée, ça veut dire quoi? D'abord, ça veut dire que toi, tu n'arriveras pas à l'accéder. Mais ça veut dire aussi autre chose. Imaginez, comme un ballon, dans lequel vous avez mis de l'hélium. Normalement, naturellement, ce ballon, qu'est-ce qui doit se passer? Quand tu le lâches, il doit monter. Mais si ce ballon est attaché, t'as beau donner tous les coups que tu veux pour le pousser, qu'est-ce qui va se passer? Il va rester lié. Il reste attaché, il bouge pas. Eh ben, il dit, l'Admor HaZaken, c'est la même chose. Il dit, c'est quoi assour? Assour, d'abord, ça veut dire qu'il est lié. Ça veut dire qu'il est emprisonné. Donc, toi, t'arrives pas à l'accéder. Et même si tu vas arriver à l'accéder, toi, c'est quoi ton but? C'est de le lever pour qu'il monte en haut, pour qu'il monte chaque Kadosh Baruch Hu. Il pourra pas se lever, il restera toujours ici. Donc, c'est pour ça qu'on te dit, tu perds ton temps, ça sert à rien. D'abord, t'arriveras pas à l'accéder. Même si tu vas arriver à l'accéder, sans perdre des plumes, parce que c'est très compliqué de, vous savez, dès qu'on commence à toucher, à devenir avec le mal, ça éclabousse, on se salit. Même si tu vas réussir à ne pas t'éclabousser ou très peu t'éclabousser, tu pourras pas le faire remonter. Ça sert à rien. C'est pour ça qu'on l'appelle assour. Assour, ça veut dire lié. Alors, c'est ce qu'il dit ici. Ve'eino yachol la'alot lemala kedavar amutar. Il peut pas monter en haut comme une chose qui est moutard. Moutard en hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire délié. Comme il est délié, donc automatiquement, je peux l'accéder. Parce qu'il n'y a pas une écorce autour de lui. Et automatiquement, si je donne un coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va monter. Donc, ça vaut le coup de travailler dessus. Diaïnou, ça veut dire, Sheino Kashur Veasur Biklipa. Moutard, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas lié et emprisonné par le mal. Et donc, du coup, Veyuchal Alot Aliede Adam Aorlo, il pourra être élevé par l'homme qui va le manger. Ça veut dire que comme ça, là, j'ai un cracker devant moi. Dans ce cracker, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une étincelle divine. Cette étincelle divine, elle est open. Ça veut dire qu'il suffit que j'ai une bracha, je la fais monter chez Kadosh Baruch Hu. Elle est déliée, elle n'attend que moi. Elle est prête. Il suffit que je donne une pichenette, elle s'envole. C'est l'étincelle de la monter chez Kadosh Baruch Hu. Ça serait dommage de pas le faire. Ça, c'est ce qu'on appelle quelque chose de moutard. Maintenant, il te dit, vegam bistam. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est, il y a beaucoup de choses neutres qu'on fait dans la vie, et on se pose la question, dans quel cas ça devient bien? Je vais expliquer ce que je veux dire. Regardez. Imaginez par exemple, tout à l'heure, à 19h30, j'ai mangé mon repas à la maison. D'accord? Bon, on va dire que j'ai fait la bracha avant. D'accord? Baruch HaShem. Mais quelle est la définition de ce repas? Est-ce que ce repas... comment vous voyez ce repas? Est-ce que ce repas, c'est dans le but de faire des mitzvot?
Faire de la force.
Non, c'est pour
Pour pouvoir faire étudier à toi.
Non, de nourrir.
À la base, c'est de nourrir.
Et se nourrir, c'est quoi? C'est bien? C'est
nécessaire.
C'est quoi?
C'est une
nécessité, ça. Sauvegarder ta vie.
Mais c'est bien, c'est pas bien?
C'est
ni l'un ni l'autre.
Alors, écoutez bien ce qu'il a expliqué ici. Il a dit, quand on est, rappelez-vous, il y a toujours trois zones. La zone à droite, c'est la Kedusha. La zone à gauche, c'est le mal. La zone du milieu. La zone du milieu, on t'a dit qu'a priori, il y a deux options. soit tu peux décider de faire du bien, soit tu peux décider de faire du mal. Maintenant, écoutez la question qu'on pose. Qu'est-ce qui se passe si je suis au milieu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis stam, comme on dit en hébreu, stam. Ça veut dire que ni je pense faire du bien, ni je pense faire du mal. Je mange, c'est tout.
Donc ça revient animal.
Ah ben non, alors justement, là je suis dans quoi? Tu m'as dit, il y a le bien, l'arbre du bien, l'arbre du mal. Tu m'as dit, au milieu, t'as un arbre qui est... Tu peux le diriger, soit bien, soit mal. Tu veux faire du bien, tu feras du bien. Tu veux faire du mal, tu feras du mal. Moi, je te dis, moi, j'ai une question à te poser, un cas que tu m'as pas dit. Qu'est-ce qui se passe si ni je pense faire du bien, ni je pense faire du mal? Je mange. Je dors.
Avec bracha ou sans bracha?
D'accord. Ouais, tu vas dormir.
Non, c'est neutre.
Bracha. T'allonges, tu vas dormir. Ta femme te dit, mais attends, pourquoi tu vas dormir? Tu dis, écoute, laisse-moi, je suis fatigué, je vais dormir.
J'ai la migraine.
D'accord. Voilà. Stam. Stam, en hébreu, ça veut dire quoi, stam? Ça veut dire sans réfléchir. Alors là, c'est quoi? C'est du bien, du mal, c'est quoi?
Il y a une autre.
Alors regardez ce qu'il va dire ici.
C'est mal, bien sûr.
On a un chidouche ici. Il dit, Vegam bistam. D'accord? Jari David de Lechem Shamaim. Vegam bistam. Même quand on fait stam, ça veut dire quoi stam? Ça veut dire que on ne cherche, il n'y a pas de kavana particulière. On prend parce que, on mange parce qu'il faut manger, on dort parce qu'il faut dormir, on marche parce qu'il faut marcher. Parce que c'est normal, exactement. Vegam bistam. Kol Adam Aoved Hashem. On te dit, mais attends, j'ai une question très simple à te poser. Tu m'as dit que quand t'es parti dormir, tu ne pensais pas le faire pour Dieu. J'ai compris. Mais dans ta journée, t'es un homme religieux. Ça veut dire que tu mets tes tefillines, tu fais ton Shabbat, d'accord? Tu es à peu près traditionnel, tu es religieux, donc tu sers Dieu. Donc même si tu n'as pas dit explicitement, même si tu n'as pas pensé explicitement, je dors pour me lever demain matin à la tefila. Mais implicitement, c'est évident que si tu manges, bah, c'est pour avoir des forces. Et pour avoir des forces pour faire quoi? D'accord? Pour pouvoir travailler. Et travailler pour quoi? Pour gagner de l'argent. Et gagner de l'argent pour quoi? D'accord? Quand tu montes. Maintenant, est-ce que ce calcul, tu le fais le matin? Non, parce que sinon, tu serais parti à midi au boulot. D'accord? Mais concrètement, ce calcul, même si tu le fais pas explicitement, implicitement, ce calcul est automatiquement fait. Donc, le chidouche qui nous apprend ici, c'est un grand chidouche qui nous apprend ici. Il dit, un juif qui fait des mitzvot, toutes ces actions banales qu'il fait, sauf s'il a une kavana, je mange bien pour aller après en boîte de nuit. Là, c'est un problème. Là, c'est, d'accord? Là, c'est, là, il a décidé d'utiliser l'énergie pour le mal. Mais toutes les actions, d'abord, qu'il a fait pour faire du bien, ou bien, stam. Stam, ça veut dire, ni pour, ni contre, neutre. Bah, il te dit automatiquement, ça récupère vers la kedusha.
Donc, si la...
Vous imaginez combien de misotes on vient de gagner, là? Je sais pas si vous imaginez.
Et s'il apprécie, alors, un petit peu la nourriture, ou bien il trouve des aliments bons?
Ah, bonne question. Alors. Pour répondre à ta question, d'accord? Pour répondre à ta question, alors, il y a deux questions qu'on va se poser ici. Première question, c'est qu'est-ce que la Torah pense des plaisirs? Numéro un. Et numéro deux, c'est ça qu'on, il va développer ça juste après. Il y a des moments dans la Torah dans lesquels on te dit qu'il faut avoir du plaisir. Par exemple, le Shabbat. Renek Shabbat. Alors, comment ça marche? J'y arrive tout de suite. Ne t'inquiète pas, il a pensé à tout. J'y arrive tout de suite.
Ça marche pas, sans plaisir.
Hmm?
Ça marche pas, sans plaisir.
Quand tu vas dormir, t'as du plaisir?
Bien sûr, puis tu te reposes.
Quand, le soir, quand tu t'allonges pour dormir, t'as du plaisir?
Moi, ça marche.
Le soir. Quand tu t'allonges, tu dis quel kiff? Moi, je m'allonge et c'est tout.
Attends.
J'étais sûr que c'est ça, c'était le chauffer. J'avais bien prévu.
C'est pas une nécessité, parce que ma nécessité est plaisante.
Qu'est-ce que t'en penses, Marcel?
Dormir, c'est une obligation, c'est pas un plaisir.
Voilà, c'est une nécessité.
Honnêtement, non, mais j'ai une question honnête à vous poser. Quand vous allongez ce soir là,
qui reste réveillé
ce soir à 11h minuit, vous allez vous allonger dans votre lit. Vous allez dire, ah, quel kiff, je m'allonge.
Pas systématiquement, mais des fois.
Hein? Honnêtement. Celui qui pense comme ça, qui lève la main.
Moi, je le dis.
Quand tu, le soir, quand tu t'allonges, ce soir à 11h minuit, tu vas t'allonger, tu vas dire, ah, c'est kiff.
Non,
je vais dormir parce que je suis fatigué, je vais dormir, c'est tout.
Quand t'as des choses à faire,
c'est comme une voiture qui doit prendre l'essence. Est-ce que t'es content que tu mets de l'essence parce qu'il fait en mettre, c'est tout.
Oui, mais bah.
Non.
Ça dépend le. Moi, je pense que c'est.
La fonction de la
travail, c'est tout. Ouais,
c'est vrai.
Oui,
quand tu
as l'oxygène
après
t'es
privé, obligatoirement,
ça te confond deux sentiments, la nécessité et le plaisir
de recevoir cette plaisir.
Le plaisir, tu parles de plaisir.
Bon,
ok. D'accord, de toute façon, il n'en parle pas de ça.
C'est une question de
définition. Alors, écoutez bien la question maintenant.
Est-ce que je peux trouver du plaisir?
D'accord. J'ai dit que je vais arriver à ta question. À Botaille. On revient au sujet. Monsieur Bissou, vous venez faire le silence là?
Silence, s'il vous plaît.
Allez, à Botaille. S'il vous plaît, deux secondes. Je reviens tout de suite. Vous inquiétez pas, je quitte pas le sujet.
Dormir la nuit, c'est obligé.
D'accord.
Pourquoi c'est obligé? Parce que tu es trop proche pour le lendemain matin.
Voilà. Donc c'est obligé.
De faire des choses.
Si c'est obligé, c'est pas du plaisir.
Tu as besoin d'aller faire des choses.
Donc c'est obligé.
Tu te reposes ton cerveau.
Très bien, ok.
Mais pas... si tu n'as pas dormi...
J'y arrive tout de suite.
T'es
pas bien, ok.
C'est une nécessité physiologique.
Non, j'ai bien ce qu'il dit, c'est juste ce qu'il dit. Alors écoutez, d'accord.
Tu es obligé de dormir tes oreilles.
Donc tu es obligé, donc c'est pas un plaisir. Voilà. Regardez ce qu'on va expliquer. C'est très simple ce qu'on va expliquer ici. D'abord, je voudrais rappeler ce qu'on a dit. Rabotaille, allez, on reste concentré. S'il vous plaît. Je rappelle ce qu'on vient d'expliquer ici. La Gemara Zaken a expliqué ici que nous avons ce qui est interdit, nous avons ce qui est permis, nous avons ce qui est au milieu qui peut être soit permis, soit interdit. C'est toutes les actions banales qu'on fait dans la vie de tous les jours. Et la Gemara Zaken nous a pris un grand chidouche. Pour moi, c'est un chidouche énorme ce qu'il vient de dire ici. Il a dit que toutes les actions qu'on fait stam, ça veut dire sans aucune raison, c'est les actions qui vont vers la Kedusha. C'est-à-dire, imaginez-vous, ce matin, vous vous êtes levé pour aller au boulot. Implicitement, vous vous êtes levé pour être un juif religieux et pour pouvoir servir à Kadosh Baruch comme il faut. Eh ben, toute la journée, vous n'arrêtez pas de faire des mitzvot. Vous prenez le téléphone, vous appelez un client, vous répondez, vous amenez vos enfants à l'école. Tout ça, c'est des actions. D'accord? Oui. Des automatismes. Eh ben, t'as dit, l'Admor HaZaken, que dans ça, en vérité, chaque chose que tu fais, tu récupères des étincelles vers la Kedusha. C'est extraordinaire ce qu'on a gagné au passage.
C'est des choses mal que tu fais.
Ah. Alors, maintenant, on peut avoir soit des choses mal, soit des choses mal, soit, quand tu prépares quelque chose de mal. Par exemple, tu sors de chez toi à la maison, tu décides d'aller faire une bêtise. Tu prends la voiture, tu mets de l'essence, d'accord? Tu enlèves ta kippa. D'accord?
Non, je suis pas d'accord. Avec la kippa, c'est mieux.
C'est ce qu'a dit la Gemara. La Gemara a dit, celui qui sent qu'il n'arrive pas à se retenir, qu'il va faire une avéra, qui s'habille de noir. D'accord?
Qui met un chapeau.
Qui s'habille de noir, comme c'est écrit. D'accord? Et qu'il aille dans un endroit que personne ne le connaît, et que personne ne le reconnaîtra. Et qu'il aille faire ce qu'il aille faire, comme ça au moins il va pas profaner le nom de Dieu. J'ai pas dit que c'est permis.
C'est pour ça que les religieux c'est bien.
Non. Ouais, mais non, noir c'est plus.
Mandy. C'est une erreur, Mandy. Alors, je m'en souviens cette histoire. En fait, Anthony, habitant en noir, parce qu'à l'époque, il fallait trouver des vêtements qui sont noirs, c'est pas du tout aujourd'hui. Et quand la ville, à l'époque, il fallait trouver un cocher, ça. Donc, le temps de faire tout ça, t'attends de réfléchir, de commencer à faire une bêtise.
Oui, mais Marie a dit que c'est pas la notion de Chilul Hashem. Bon, je reprends. Allez, rabotaille. Vegam bistam. Même si je fais stam, ça veut dire je fais une action par défaut, sans kavana particulière. Kol Adam Aoved Hashem. Toute personne qui sert Dieu, parce que c'est vrai que t'as pas réfléchi pourquoi je le fais, mais tu es une personne qui sert Dieu. Donc, Shebekoach Achilahi, avec la force de cette nourriture que tu viens de manger, le med, tu vas pouvoir étudier. Ou Mitpalel Hashem, et tu pourras prier pour Akadosh Baruch Hu. Donc, Venimtsa, ça veut dire, Shenaase Otsiyot a Torah Vatfila Aola Hashem Mikoach Anivral Mamachalahu. Ça veut dire qu'en vérité, si on prend un peu de recul, si on prend un peu de recul par rapport à tout ce qui s'est passé, si on prend une image de tout le plan de la vie d'un homme, grâce à quoi j'ai pu étudier la Torah maintenant? Grâce au fait que j'ai mangé tout à l'heure. Grâce au fait que je me suis reposé. Grâce au fait que je suis en forme maintenant. Donc en vérité, grâce à quoi j'étudie la Torah? Grâce à ce qu'il y avait avant. Te dit la Gemara Zaken ici. Ça veut dire qu'en vérité, toutes ces actions que toi tu crois être banales, en vérité ces actions, elles ont l'appellation préparation de mitzvah. Et sa préparation de mitzvah, c'est énorme. Regardez, par exemple la soukha. Je prépare la soukha. C'est quoi la mitzvah? C'est d'habiter dans la soukha ou de construire la soukha?
Les deux.
La mitzvah, c'est d'habiter dans la soukha. D'accord?
Non?
Écoutez bien. La mitzvah, c'est d'habiter dans la soukha. Seulement, il y a ce qu'on appelle marchir mitzvah. C'est quoi marchir mitzvah? C'est ce qui prépare la mitzvah. Donc pour avoir une souka, bah, il faut la construire. Voilà. Pour la construire, bah, il faut des mains. Et ça, elle va pas construire toute seule, d'accord? Bon. Pour construire la souka. Alors, le chef. Alors. Donc pour construire, il faut des mains. Il faut des mains, il faut des pieds. Pour construire la souka, il faut de l'argent. Il faut acheter cette souka. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la mitzvah. Et il y a tout ce qui est marchir mitzvah qui prépare la mitzvah. D'accord? En vérité, ce qui explique la Morazaken, c'est qu'on retrouve ça dans toute la vie. Par exemple, le Shabbat. On va faire un repas. Combien de temps on va manger le repas? D'accord? Une demi-heure. Combien de temps ça a pris pour préparer ce repas? D'accord? Attendez, doucement. Il faut compter le temps pour cuisiner. Il faut compter le temps pour aller acheter. Il faut compter le temps pour aller travailler pour pouvoir aller acheter. Alors?
D'accord? Combien de temps? Zéro.
Eh ben, quel chidouche Admor HaZaken nous apprend? L'Admor HaZaken, il te dit, tu sais ce qui va se passer? Rakshnia, deux secondes, je termine là. Qu'est-ce qu'il dit l'Admor HaZaken? Deux secondes. Qu'est-ce qu'il dit l'Admor HaZaken? L'Admor HaZaken te dit quelque chose de très puissant ici. Il te dit, quand au bout du compte, au bout de la ligne, tu fais une mitzvah, c'est pas seulement la mitzvah qui monte chez Kadosh Baruch Hu. C'est tout ce qui était sur la chaîne qui t'a permis d'arriver à la mitzvah. Et tout ça, Dieu leur donne l'appellation, marchir mitzvah, préparateur de mitzvah. C'est extraordinaire. Vous imaginez le nombre de mitzvot qu'on a gagné là au passage? La extraordinaire.
Boue, la boue dans les chaussures.
D'accord. Vas-y, Shimon, Bechava, t'avais une question. Excuse-moi, Shimon.
On a dit que tu vas préparer.
Oui.
Ça veut dire que ça dépend. Merci. Il y en a des gens qui peuvent préparer plus rapide que les gens qui mangent. Mm-hmm. Tu vois, ça veut dire que
prépare une demi-heure et tu manges.
Non, c'est juste tu prépares un plat. Tu peux préparer un plat dans un quart d'heure.
C'est écrit que plus de...
Quand tu vas manger ça, on dit il faut qu'il fait manger ça. Il faut que tu sens la goût pour manger ça.
La Gemara, elle dit quelque chose de très simple.
Si tu ne sens pas la goût pour manger ça, si tu manges ça rapide, tac, 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 tac.
La Gemara, elle dit quelque chose de très simple. La Gemara, elle dit pour apprécier quelque chose, il faut se fatiguer pour l'avoir obtenu. Exactement. Et plus tu te fatigues, et plus tu vas l'apprécier. Parce qu'en vérité, la notion, tout à l'heure, il a dit on kiffe, on veut que ce soit bon. Mais en vérité, la notion de bon et pas bon, c'est subjectif.
Exactement.
Subjectif, ça veut dire que ça dépend de chacun.
Pour que ce soit bon, il faut aimer.
C'est comme un salaire.
Et comment tu aimes? Pourquoi tu aimes?
Tu n'aimes pas faire la cuisine,
c'est pas vrai. Le Shabbat, c'est pas une
non,
exactement.
Eh ben, tu sais quoi, ce grand chef? Je vais te dire quelque chose. Si ce restaurant, on t'a invité dehors dans la rue, on t'a dit venez manger au restaurant, d'accord? Donc, le plat que tu veux, il vaut 200, le plat que tu vas manger, il vaut 200 euros. Mais tu l'as mangé gratuitement, sans payer. Le lendemain, t'as une autre personne qui vient, et lui, il a payé ses 200 euros, je peux te garantir que son plat, il trouvera plus bon que le tien.
Je suis d'accord avec toi. Il
va pourquoi?
Parce qu'il va apprécier.
Parce qu'il s'est plus fatigué pour l'obtenir. C'est comme
là,
ça!
Là, je vais manger pour 10 euros.
Un plat à 200 euros, c'est que dans le cachet, hein.
Oui, c'est que dans le cachet.
Non. Même la tour d'argent, il n'y a pas.
Moi, j'aime pas
restaurant. Non, c'est pas vrai, il y a
des bons
restaurants.
Oui,
moi,
j'aime.
Oui, non, mais
d'accord. Alors, on continue. Il dit, Vézé ou Bechol? Alors maintenant, il nous apprend un autre ridouche. Et là, je vais répondre à la question de Yves de tout à l'heure. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yves, la question qu'on s'est posée, c'est finalement, qu'est-ce que la Torah pense du plaisir? Est-ce qu'on doit se procurer du plaisir quand on mange? Finalement, ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que la Torah, quelque part, elle ferme les yeux sur ça. Ce qui compte, c'est quoi? Écoutez bien ce que je veux dire. Ce qui compte, c'est quoi? Ce qui compte, c'est qu'avec cette nourriture, avec ce sommeil, avec, t'as pris des forces pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Mais attention, ça ne veut pas dire que quand j'ai mangé, la nourriture elle-même était une mitzvah. On est bien d'accord? On est d'accord? S'il vous plaît. On est bien d'accord que c'est seulement, elle a seulement l'appellation de marchir mitzvah. Marchir, c'est-à-dire celui qui a préparé, celui qui a rendu accessible, celui qui a rendu possible la mitzvah. D'accord? Celui qui a rendu possible la mitzvah. Ça veut dire que tout ce que j'ai mangé maintenant, c'est seulement ce qui rend possible la mitzvah. Il y a une exception. C'est ce qu'on mange Shabbat et Yom Tov. Et là, écoutez bien. Manger Shabbat et Yom Tov, non seulement que c'est quelque chose qui prépare une mitzvah, ça même c'est une mitzvah. Et je vais expliquer la différence. C'est très simple, une différence fondamentale. Je répète. Ce cracker, si je le mange maintenant, il a la définition de marchir mitzvah. Ça veut dire préparation à la mitzvah. C'est déjà pas mal, mais c'est pas une mitzvah. C'est une préparation pour une mitzvah. Pour pouvoir étudier, manger avec la force de ce que ce cracker va me donner. Ça, c'est en semaine. Ce même cracker, si je le mange Shabbat, il a une nouvelle définition. Il devient mitzvah tout court. C'est une mitzvah. Pourquoi? Parce que le Shabbat, on a une mitzvah particulière qui est la mitzvah de Onek Shabbat, le plaisir du Shabbat. Alors écoutez bien ce que je vais dire maintenant. chez les chassidim, on dit toujours que le plaisir, c'est, il ne faut pas chercher à avoir du plaisir quand on mange. Ça peut être un peu compliqué ce que je veux dire. C'est pas de l'ascétisme, d'accord? Mais c'est comme ça. Il faut savoir que chez les chassidim, on dit que il n'y a pas de secret. En nous, on a l'aneshama et on a le corps. Et quand l'un est fort, l'autre est faible. Il n'y a pas où aller. Ça veut dire que quand tu es toute la journée en train de penser à tes kiffs et comment je vais kiffer, est-ce que ça c'est meilleur que ça? Du coup, le spirituel, c'est pas qu'il s'en va, c'est qu'il est moins présent. C'est comme ça. Il n'y a rien à faire. Si tu veux que le spirituel soit plus présent, il faut être moins regardant sur la qualité de ce que tu manges, est-ce que je kiffe ou est-ce que je kiffe pas. Et c'est comme ça. C'est comme ça qu'on s'habitue. Il y a un seul moment dans la semaine dans lequel on te dit que non seulement que tu peux avoir du plaisir et que c'est recommandé, mais que c'est carrément une mitzvah. Et que là, c'est un chidouche. C'est que là, le plaisir devient une mitzvah. Le plaisir, c'est la mitzvah.
Et qu'est-ce qui change?
D'accord? Ce qui change, c'est que comme la Torah, c'est la Torah qui m'a demandé, donc ça devient une mitzvah. La semaine, la Torah, il n'y a pas de mitzvah de manger la semaine. Il n'y a pas une mitzvah de la Torah qui te dit, tu mangeras le mercredi.
C'est-à-dire que finalement, le Shabbat, je m'en côté.
Exactement. Ça veut dire que le Shabbat, pratiquement tout ce qu'on fait, c'est une mitzvah.
Moi, j'ai entendu.
Tu manges, tu dors. Le Shabbat, c'est très simple. La Torah a dit que le Shabbat, je termine cette idée. Le Shabbat, il y a une mitzvah. Une mitzvah qui s'appelle le Ronek Shabbat, le plaisir du Shabbat. Maintenant, les Chachamim se sont posé la question. Ils ont dit, qu'est-ce qui procure à une personne du plaisir? D'accord? Alors, ils ont dit, manger, ça procure du plaisir. Bonne nourriture. D'accord? Ils ont dit, dormir. Shabbat, c'est l'initial de Shinab et Shabbat Ta'anoug. Le sommeil, le Shabbat, c'est un plaisir. Excusez-moi, je vais être un peu cru. Voilà.
Oui.
Le vendredi soir, il y a une mitzvah particulière.
Ah,
d'accord? Un homme avec sa femme. Pourquoi? 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 C'est parce que c'est Onek Shabbat. Non, mais ça veut dire qu'on prend ça très au sérieux. Ça veut dire que le faire vendredi soir, c'est une mitzvah. Plus que les autres soirs. Parce que ça rentre dans le cadre du plaisir du Shabbat. Tout ce qui rentre dans le cadre du plaisir du Shabbat, c'est une mitzvah. Maintenant, je vais vous expliquer à quel point ça va. Vous savez, à l'époque, quand une personne faisait un mauvais rêve, un rêve dans lequel il rêvait du plaisir, qu'il allait mourir, de choses comme ça, on faisait un jeûne. Aujourd'hui, on le fait pratiquement pas, sauf vraiment si c'est un rêve qui se répète, puisque aujourd'hui, on considère que nos rêves ne sont pas importants. Mais à l'époque, on jeûnait. La question qui se pose maintenant, qu'est-ce qui se passe si une personne fait un mauvais rêve vendredi soir? Normalement, quand une personne faisait un mauvais rêve, la journée d'après, il fallait jeûner. Parce que quand tu fais un rêve, ça veut dire que c'est imminent, ça arrive. Il faut pas perdre de temps. Quel est le dîme? Il est pas bien. Alors on dit, le Shrano aurait dit comme ça. Dit, on lui pose la question. On lui dit, est-ce que tu penses que tu peux attendre demain pour jeûner?
Non.
D'accord? La réponse que les gens donnaient à l'époque, c'est pas de la superstition, mais bon, ils disent, écoute, moi j'ai reçu le message vendredi soir, je veux m'en occuper Shabbat. Il a le droit de jeûner Shabbat ou il a le droit de jeûner Shabbat?
Oui.
D'accord? Il a le droit de jeûner Shabbat. Réponse du Shuranaour. Il a le droit de jeûner. Pourquoi? Pourquoi? Écoutez bien. Et la réponse est extraordinaire. Il dit parce que Shabbat n'est pas divin de manger. Shabbat, la mitzvah, c'est le Ronek Shabbat. C'est le plaisir du Shabbat. Cette personne-là, vu l'angoisse qu'il a,
il n'est
pas jeûné, il aura plus de plaisir à jeûner qu'à manger. Donc on lui dit, toi, ton plaisir de Shabbat, c'est de jeûner.
Il aura le sentiment d'avoir accompli.
Et c'est comme ça peut aller? Mais il y a quand même, je finis la halakha. La halakha dit quand même, comme il a rêvé une situation comme ça, que concrètement, il n'a pas mangé Shabbat, quelque part, ça peut être perçu comme un manque de respect envers le Shabbat. Donc il devra jeûner un deuxième jeûne dans la semaine.
Ouais, c'est une récup.
Pour s'excuser du fait qu'il a jeûné Shabbat. Mais il jeûne Shabbat. Pas plus, hein? Aujourd'hui, on jeûne plus.
N'exagérons rien.
Pas Shabbat.
Pas Shabbat.
On est d'accord? Vous avez une question?
Non, moi, j'ai entendu quelqu'un, par exemple, pour Seouda Shishit, très souvent, tu n'en peux plus, t'as pas faim. Et on te dit, mais c'est une mitzvah de manger. Et moi, le gars, il m'a répondu, il me dit, mais moi, mon oneg, à ce moment-là, c'est de pas manger. C'est mon plaisir. Si je mange, je me fais pas plaisir. Donc, il avait retourné le truc. C'est vrai que très souvent, c'est Oudash Lichit, tu dois sortir le pain, tu dois faire ci.
C'était le docteur Doukan.
Il a raison.
Mais c'est bon. Et lui, non, c'est quelqu'un en plus qui étudie.
Il y a 400
ou d'autres. Mon ex, c'est de pas manger. J'ai pas envie de manger. C'est mon plaisir de faire ça.
Il mangeait que du.
Mais lui qui devra rejeter.
Chocolat? Encore une fois, moi par exemple, il y a des gens qui me disent qu'ils font le repas de vendredi et le repas de Shabbat midi, ils font avec du fromage. D'accord? Le fromage, oui. C'est moutard. Seulement, écoutez, c'est très simple.
Se fait qu'avec du pain.
Seulement, non, c'est très simple. Les Chachamim, ils se sont posé la question, qu'est-ce qui procure du plaisir à une personne? Ils ont créé des normes. Maintenant, si une personne est hors norme et que lui il dit moi manger de la viande, ça me fait du mal à mon corps. Il y a des gens qui supportent pas la viande, supportent le poulet. C'est possible. Une personne comme ça, son honnête, c'est de manger autre chose. Donc il n'y a pas de problème. Ce que je veux montrer par là, c'est quoi? C'est qu'il y a certaines fois dans la semaine, donc notamment le Shabbat, dans lesquelles le fait de manger, dormir, marcher, etc., non seulement que c'est pas seulement que c'est une préparation pour la mitzvah, c'est lui-même une mitzvah. Ah, c'est extraordinaire. C'est ce qu'on va dire dans les mots ici.
La sieste du Shabbat, mais on est sorti du contexte. Bon,
ouais. Pas du tout. On est en plein dedans, là.
On pourrait pas être. Avant, on avait. On voulait savoir si on avait dit à
Torah ou non. Non. Là, c'était.
Ah oui, je me rappelle.
Non, non, mais d'assaut,
là. Il a démontré le contraire, le dernier.
Oui, j'ai compris. Bon, mais.
Là, on sort.
Non, non, pas du tout. Là, il veut expliquer ce que le Zohar a dit, qu'étudier la halakha de Issour Véhéter. Ça, c'est le bien. Mais ça, j'y arriverai plus tard. La semaine prochaine. D'accord? Alors, il dit comme ça. Il dit Vezeu Bechol. Vous avez dans les mots? Rabotaille, je suis 4 lignes avant la fin de la page. Il dit, Vezeu Bechol. Ça, le fait qu'on a dit que tout ce qui était avant la mitzvah, tout ce qui a préparé la mitzvah, ça s'appelle marchir mitzvah, ça c'est le chol. Aval be Shabbat, mais le Shabbat, Sheyesh Aliya Liklipat Noga Beatma, le Shabbat, on dit, on est dans une autre gamme. Imachitson Yuchi Bechol Olamot, la chen. Mitzvah l'echol kol ta'anugim b'Shabbat. C'est une mitzvah de manger tous les plaisirs possibles pendant Shabbat. Kasher, bien sûr. Parce que si c'est pas kasher, d'accord. Ah, parce que si c'est pas kasher, c'est verrouillé. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure.
C'est pas kasher.
On tombe sur les cordes.
Attendez, j'ai pas fini. Ou les harbot, les bassar. Mais écoutez, c'est curieux ce qu'il va expliquer. Il te dit le Shabbat. Il y a deux choses qu'on retrouve de manière très forte le Shabbat. La viande et le vin. La viande et le vin, on est d'accord, c'est deux notions clés du Shabbat. Et les chalotes, etc. et tout. Mais je veux dire, dans les plats du Shabbat, ce qui revient, ce qui donne de l'importance, d'accord, c'est la viande. Le plat principal, c'est quoi? C'est la viande et le vin. Vous savez que normalement, à la base, normalement, le kiddush, on n'aurait même pas besoin de le faire sur le vin. Le kiddush, à l'époque de la Gemara, au début, écoutez bien ce que je veux dire, Rabotai, s'il vous plaît. Le kiddush, à la base, on le faisait à l'oral. Ça veut dire on disait un texte et c'est tout. Les chachamim ont dit, ça ne se fait pas. D'accord? Ils ont dit, tu lis un texte comme ça, sans rien, tu le bâcles. Ils ont dit, il faut donner de l'importance à la situation. Ils ont dit, on va faire autour d'un verre de vin. Parce que c'est comme, tu comprends, quand tu fais un contrat, s'il y a un verre de vin qui est sur la table, tout de suite ça donne une autre dimension. Donc les chachamim, ils ont dit, on va faire ça avec un verre de vin. On a écouté bien la question que pose Admor HaZaken. Il dit, attends, ça veut dire qu'il y a deux notions clés dans le Shabbat, deux choses qui reviennent, c'est la viande et le vin. Ça nous dit quelque chose, la viande et le vin. Le ben sorer ou moré, dans la paracha qui t'aime au
quotidien.
C'est quoi son problème? C'est un jeune homme qui a 13 ans et qui mange beaucoup de viande et qui boit beaucoup de vin. Et qu'est-ce que la Torah dit? C'est un cas qui n'est jamais arrivé. Il faut le tuer. Ça veut dire, qu'est-ce qu'explique la belle commentaire, Rachid, etc.? Il dit, une personne ne doit pas être goinfre de viande, d'accord? Et ne doit pas vouloir s'empivrer, si je peux le dire. De vin.
S'enivrer
de vin. On est d'accord? Très bien. Écoutez bien, mais il dit, mais je comprends pas. Il dit, comment une chose qui est fortement déconseillée la semaine, et quand tu vois une personne en semaine qui est là en train de prendre plein de viande et plein d'eau, tu dis, ah, ça se fait pas.
Ils adorent la
viande. Et le Shabbat, non seulement c'est plus interdit, c'est devenu une mitzvah. Ça veut dire que le Shabbat, c'est une autre gamme. Vous voyez la nuance? Le Shabbat, ce qui était pas déconseillé, mais c'est écrit que la semaine, il ne faut pas abuser dans la viande.
Il faut manger.
Ah oui, c'est connu.
Poisson,
pas viande. Je ne donne pas des quantités.
Oui. Non, il dit, c'est des conseils, mais je
ne peux pas
manger. Une bonne fois.
Dab.
Seulement 2 fois 4 kilos par
semaine. Dab. Lama, Obrem, Dab et Shabbat. Dag. Kama otiot, Tomet, Kama et Bedag. Dag, Dalet, c'est Kama.
4.
Arba. Game, c'est Kama.
C'est 7.
C'est 7.
Qu'est-ce qu'il a dit? Mais ça veut dire qu'on rajoute.
Il dit dag le poisson. Hein. Il dag le poisson, c'est la même valeur numérique que 7.
Ah, d'accord.
7, c'est comme Shabbat, le 7ème jour.
Non, mais ça veut dire que tu le rajoutes.
Mais dis. Donc ça veut dire
qu'on
peut
faire rien comme ça. Donc, est-ce qu'on peut faire rien comme ça? Quand on a dit qu'on est dans Nefashot, c'est une sorte de clé pour délier.
Oui, j'ai compris ce que tu veux dire. Mais là, sauf que là, on a développé une nouvelle notion. Avant, il y avait Assour et Moutar. Maintenant, on a rajouté une nouvelle notion qui s'appelle Mitzvah. Parce que c'est pas parce que c'est Moutar que c'est une Mitzvah. Une fille? Je répète.
Ouais.
Au début du cours, on parlait de Assour et Moutar. Interdit et permis. Mais c'est pas parce que c'est permis que c'est une Mitzvah. Là maintenant, on est dans le moutard même. On te dit, il y a ce qui prépare la mitzvah et il y a la mitzvah dans ce qui est permis. C'est-à-dire que là, dans le moutard même, on te développe plusieurs nuances de moutard.
Oui.
On est d'accord?
Oui, d'accord. Moi, je parle du sourd. C'est qu'il dit, par exemple, manger du fachot. Oui.
Tu dois manger. Ah, bonne question. J'arrive tout de suite, c'est là. Voilà, en plein dedans. Ah, t'es un bon aujourd'hui, hein, tu.
Non,
il a vu la suite, c'est pas possible.
Non, il n'a pas bu de vin, il n'a pas mangé de viande.
C'est deux lignes en dessous. Les trois questions qu'il a posées aujourd'hui, c'était la ligne d'après, à chaque fois.
Ah, t'as révisé d'abord.
La classe.
Tonton.
Il est en train de s'élever,
Il a frit.
Alors écoutez bien. Il dit Av Shebechol Nikra Zolel Vesové. Que on voit que le Shabbat, il faut me laisser répondre à ta question. Le Shabbat, nous avons une mitzvah de quoi? De manger de la viande et du vin. Alors que la semaine, celui qui est pas seulement de manger beaucoup. Ça c'est la mitzvah. Les harbot, ça veut dire quoi? Arbé en hébreu, ça veut dire quoi? Beaucoup. Av Shebechol, bien que dans le chol, Nikra, Zolel Vesové. Celui qui abuse pendant le chol, la semaine, de la viande et du vin, on dit, ça se fait pas. Tu es goinfre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, quelle est la différence? C'est que dans la semaine, ta viande et ton vin, hein, c'est seulement pour préparer une mitzvah. Alors on veut bien quand tu prends en modéré, mais quand tu commences à te goinfrer de viande, on te dit, attends, tu fais plus pour toi. Tu te prépares pas à la mitzvah, là, ne la fais pas. Non, deux secondes. J'ai pas dit de pas faire de barbecue. Ah bon? J'ai dit que quand une personne abuse de viande, du style toute la journée, il mange la viande, abusé. La Torah lui dit, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que là, ça se voit que tu le fais plus pour préparer la mitzvah. Tu le fais que pour ton kiff. Le Shabbat, ça devient moutard. Pourquoi? Parce que, pas seulement moutard, c'est une mitzvah. Bah oui. Parce que le Shabbat, qu'est-ce qu'on apprend? Le Shabbat, comme on n'est plus en mode préparation de mitzvah, on est en mode mitzvah. Donc pour une mitzvah, il n'y a pas de limite. De la même manière, quand tu achètes un etrog, tu peux acheter un etrog à 10 euros, tu peux acheter un etrog à 200 euros. Et ben, de la même manière, le Shabbat, il n'y a pas de limite à la mitzvah. Parce que plus tu vas investir dans le repas, c'est comme si tu investissais dans un etrog. C'est extraordinaire. Machenken, mitvarisour, eino yachol alot. Par contre, quand c'est une chose interdite, là, chez Eino Yachol, la lot, lo be Shabbat, ve lo be chol. Maintenant, imaginez ce cas. Une personne, d'accord, il a mangé un bon morceau de cochon. Ça lui a donné beaucoup de force. Écoutez la question.
Shabbat.
Allez, voilà, tranquille. Je te fais le top. Voilà.
Un juif ou un
juif. Samedi midi, d'accord, il se fait un bon morceau de, comment on appelle ça, d'accord, voilà. Il se fait une daf au porc. D'accord, c'est de... je sais pas moi, ça m'écœure ce truc là, mais bon, il se lâche, d'accord, il mange, il s'éclate, il sort de chez lui, il va à la synagogue et il a une pêche énorme, il étudie toute l'après-midi.
C'est pas sérieux.
Il y a un problème.
C'est pas compatible.
Quoi, un problème?
C'est parce qu'il a mangé.
Il a récupéré les étincelles.
Il a récupéré.
C'est parce qu'il a mangé.
Là, a priori, on a tout pour nous. Il a utilisé ça pour faire une mitzvah. En plus, manger, c'est une mitzvah.
Il y a beaucoup de viande.
D'accord? En plus, beaucoup de viande. On est bon. Il s'est éclaté. Et c'était bon, la vérité. Qu'est-ce qu'il te répond? Il te dit, là, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il est assourd. Puisqu'il est assourd, ça veut dire quoi? C'est vrai que, techniquement, tu as raison. C'est comme t'as un moteur. T'as mis le paquet. Mais il est bloqué. Ça veut dire, même si tu envoies un gros moteur, tu envoies la pression, même si t'as tout pour toi, il est bloqué, il bougera pas. Laisse tomber, tu perds ton temps. Donc on te dit, écoute, on apprécie le fait que tu étudies la Torah grâce à ça, etc., mais il est bloqué, il restera bloqué. Alors que d'un autre côté, quand on est en mode moutard, là on a la différence, ce qui est prépare la mitzvah, et ce qui est mitzvah lui-même. Maintenant je réponds à ta question. Imlo, she'achal, le pikuach nefesh. La seule exception dans laquelle manger quelque chose d'interdit, on peut récupérer la kiddusha, c'est quoi? C'est si la Torah me le demande. Quand la Torah te demande de manger du cochon, jamais. Imlo shachal le pikuach nefesh. Si ce n'est s'il a mangé le pikuach nefesh pour sauver sa vie.
Les médecins lui obligent.
Que là, par exemple, danger de mort, ou bien par exemple, le docteur a dit, vous devez manger ce plat. Vous êtes en danger, vous devez manger ce plat. Et il l'a mangé.
T'as mangé ton voisin.
D'accord? Alors écoutez bien. Là, dans ce cas-là, c'est très fort ce qu'il va expliquer ici. Il va dire, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que la Torah te permet de le manger? Ou est-ce que ça veut dire que la Torah t'ordonne de le manger?
Non, ordonne. Elle ne permet pas.
Elle t'ordonne de le manger.
Il y a un cas concret. En 1978 ou 80,
d'accord,
il y a un avion qui s'est écrasé au nord de l'Himalaya.
Oui.
Il y a eu des... Ils sont restés là-bas pendant un mois.
Je connais ton cas.
Il a raison.
Ils se bouffaient entre eux, ou ils mouraient, ils ne se sont pas tués, ils ont mangé les morts. Je vais être un peu cru.
Non, ils ne tuaient pas, ils mangeaient
voilà,
les morts.
Non,
ils mangeaient ceux qui étaient morts.
Non, non, ils mangeaient, non, là-bas, ils ne tuaient pas.
Entre le Chili et l'Argentine. Si tu personne, ce n'est pas interdit.
Entre le Chili et l'Argentine.
Tu sais pourquoi on n'a pas le droit de tuer quelqu'un?
C'est une équipe de...
Ils n'avaient pas de feu, ils y ont cru.
C'était une équipe de rugby ou un truc comme ça.
Et combien ont été sauvés? Combien ont été sauvés?
Deux ou trois. Sur dix personnes, il y a eu peut-être un ou deux, une ou deux personnes.
Il y avait 30 ou 40 personnes et il y en a 3 qui sont...
Au fur et à mesure, et au bout d'un moment, ils sont arrivés, il n'y avait plus rien avec la neige à manger.
Ils ont, dit, ils les ont découpés.
Une petite cuisse ici, on va la taper. Une belle cuisse. Et ils ont tenu comme ça jusqu'à que... Il a dépassé la frontière des ans.
Ils n'ont pas tué.
On n'a pas dit qu'ils
ont
fait
des choses.
Ils ont fait des choses.
Ils ont fait des choses.
Ok, d'accord.
Ils se sont nourris.
Ils n'ont pas le choix, c'est sûr. Ils n'ont pas le choix, qu'est-ce que tu veux faire? Seulement, la seule raison pour laquelle on n'a pas le droit de tuer quelqu'un pour se sauver notre vie, parce que la Gemara a dit, mon sang n'est pas plus rouge que le sang de l'autre.
Non, mais je veux dire, s'il est...
Non, parce que sinon...
Non, il n'y a pas de limite.
On va vérifier.
Sinon, il n'y a pas de limite. Seul, tu dis, j'ai pas le choix, je dois le tuer. La mafia, j'ai pas le choix, qu'est-ce que tu veux? Il me laisse pas le choix, qu'est-ce que tu veux?
Si, il y a un cas où, justement, s'il t'aide. Non, mais attends, si je ne tue pas, il me tue. Mais là, j'ai le droit de le tuer.
Si quoi?
Si je ne tue pas, il me tue.
S'il veut te tuer.
Ah oui. D'accord.
Donc, Imlo,
c'était une question de santé.
Oui. Alors, écoutez bien ce qu'il dit, je finis avec ça. Là, maintenant, je reprends un autre cas. Imaginez maintenant une personne que les docteurs lui ont dit, le samedi après-midi, tu devras manger une daf au lardon. Zera.
Wow. D'accord. Un peu de crème fraîche quand même.
D'accord. Il est obligatoire. Ah, non, c'est votre. D'accord.
David, il en peut.
Daf au lardon obligatoire. Écoutez mon cas. Il le fait parce qu'il n'a pas le choix. Bracha et tout. Bah oui, il n'a pas le choix.
Hey, y a
bien sûr.
Ouais,
d'accord.
Y a
bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a des brachas particulières, mais il y a, bien sûr. Il faut remercier Dieu. Alors écoutez bien. Bracha et tout. Il fait son repas. Il se sent bien. Il se met à étudier la Torah. Avec la force de cette nourriture. Qu'est-ce que dit l'Admor Hazaken?
C'est bon.
Pas seulement c'est bon. Étant donné que quand il a mangé, il avait le droit de le faire. Comme il avait le droit de le faire, donc du coup, ça veut dire que la Torah, elle a dit que ça pour toi, c'est moutard. C'est-à-dire que la Torah a décidé que ça pour toi, c'est délié. Délié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux récupérer les étincelles qui sont dedans. Donc, s'il va étudier la Torah grâce à cette force-là, eh bien du coup, ce cochon va avoir l'appellation Marchir Mitzvah, préparateur de Mitzvah. Maintenant, il y a quelque chose de curieux et je voulais m'arrêter sur ça pour aujourd'hui. Vous remarquez qu'ici, le mot gamour est entrecroché.
Oui.
Il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé sur ça. Pourquoi? Parce qu'il dit que quand les chachamim ont permis de manger quelque chose d'interdit, là ça devient permis. Mais après, il y a un mot qui rajoute. Il y a une version qui dit qu'il faut dire éther, c'est-à-dire que ça devient permis. Il y a une autre version qui dit que ça devient éther gamour. Ça veut dire c'est absolument permis. Et là, en vérité, ce petit mot absolument change tout. Parce qu'en vérité, on veut savoir quelle est l'approche d'Admor Hazaken. Dans les cas dans lesquels la Torah te dit, écoute, si tu veux, si t'as pas le choix, tu peux. Est-ce que ça veut dire que je dois? Est-ce que ça veut dire que c'est absolument permis? Est-ce que ça veut dire simplement qu'on fermera les yeux quand j'arriverai en haut? Ou est-ce que ça veut dire que c'est absolument permis? Et ben, chez les chassidim, il y a eu une grande, il y a eu deux versions dans les éditions du Tania qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils sont recrochés. Écoutez bien. D'accord? Non. Parce que les éditions qu'on a du Tania d'aujourd'hui se basent sur des éditions manuscrites. Et dans les manuscrits qu'on a, on a trouvé les deux. Il y a des manuscrits dans lesquels le mot gamour est écrit. Il y a des manuscrits dans lesquels le mot gamour n'est pas écrit. D'accord? Eh oui. Et donc, du coup, on sait pas vraiment qu'est-ce que pensait l'Admor Hazaken. C'est évident que celui qui veut manger, il peut manger, il doit manger, il y a pas de problème. Pas du tout. Mais la question est, écoute ma question. On dit par exemple, l'Admor Hazaken lui-même quand il était en prison, écoute bien. L'Admor Hazaken quand il était en prison, il a refusé, on lui servait en prison des plats pas cachers. Il a refusé de manger. D'accord? Pendant une semaine, il a fait la grève de la faim. Alors, il y a une personne qui est venue le voir, qui était intelligent, quelqu'un de là-bas. Il lui a dit, mais dans votre religion, on n'a pas le droit de se laisser mourir. Vous devez manger ce qu'on vous donne. Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, je préfère transgresser ça que de salir ma neshama. Tu me suis? Ça veut dire que c'est pas très clair. Ça veut dire que c'est pas si sûr que quand tu peux sauver ta vie avec quelque chose d'interdit, tu dois le faire. C'est pas si sûr. Est-ce que tu dois le faire ou est-ce que tu peux le faire? Mais attention.
Je suis pas encore perdu. Si je fais la grève de la faim, je mange pas. Oui, au contraire. Je suis encore vivant.
Combien de cas on est?
Si au moment, voilà, je prends pas ça, je meurs tout de suite.
Si maintenant on te dit par exemple, non, c'est pas tu tues, non, c'est pas tu tues, non, 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 je suis désolé.
Tu ne manges pas la viande, tu meurs.
Même pour transgresser le Shabbat, c'est non, mais c'est là où on monte le cas où
il n'a pas le droit de faire.
Et si c'est moi qui dois manger, qu'est-ce que tu fais?
Voilà. Donc ça c'était pour répondre à ta question. Donc en vérité, la réponse à ta question, c'est pas la même chose.
Mais si c'est la même chose.
Non. Moi je dis Dieu m'a interdit de manger ça. Je sais que ça fait du mal à ma neshama. Et je sais que même si ça m'est permis. Écoute bien. Bon, je finis avec ça pour aujourd'hui. Je vais juste terminer de répondre à sa question. Il faut comprendre quelque chose. Quand on parle de mitzvot et de averot, écoute bien la réponse et je finis avec ça pour aujourd'hui. Quand on parle de mitzvot et de averot, il y a deux choses. Il y a premièrement, écoutez, c'est important ce que je veux dire. C'est une question importante qu'il a posée. Quand on parle de mitzvot et de averot, il y a deux choses. Première chose, c'est est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est interdit, dans le sens, est-ce que quand j'arriverai en haut, on me le reprochera? Est-ce que juridiquement, on me dira, tu as fait une bêtise, ou est-ce que juridiquement, on me dira, tu as fait une mitzvah? Ça, c'est l'aspect juridique. Comme chez les chassidim, on a toujours appris à ne pas regarder seulement l'aspect juridique. Mis à part l'aspect juridique, est-ce que je pouvais le faire, est-ce que je pouvais pas le faire, il y a l'aspect spirituel, c'est-à-dire l'impact que ça fait sur ma neshama. Quand tu manges quelque chose de pas cachère, même si tu l'as fait parce que tu n'avais pas le choix, ça laisse des traces dans ta neshama.
Mais ça, le tzadik, c'est que le truie, il peut le retourner
non,
en
Non, pas du tout, non.
Mais bien sûr.
Est-ce que ça veut dire que la Torah te dit que tu dois le manger? Alors, c'est ce que je vous dis. Il y a les deux versions dans le Tanya, les deux versions, et c'est pas tranché, parce que l'Admor Hazaka n'est pas avec nous. Enfin, en tout cas, du moins, on peut pas l'entendre. Donc, on sait pas si s'il a écrit dans son manuscrit original, est-ce qu'il a écrit le mot gamour ou est-ce qu'il a pas écrit le mot gamour? Est-ce qu'il a écrit que c'est permis absolument ou est-ce qu'il a écrit que c'est permis? C'est pas la même chose. Si tu dis permis absolument, ça veut dire il faut y aller et celui qui fait peur, on lui dira tu t'es tué. Si tu dis que c'est permis, bon, c'est permis. Ça veut pas dire je dois le faire. Tu vois la différence? Ça n'a pas été tranché.
Pas un permis, ça reste permis.
Donc ça veut dire que, dans la halakha aujourd'hui, on dit que c'est une sorte de zone d'ombre. Ça veut dire comme ça. Par exemple, je donne un autre exemple.
De toute façon, c'est exceptionnel.
On dit que le Shabbat, on dit par exemple qu'on n'a pas le droit, il y a que trois avérotes pour lesquelles on a le droit de donner notre vie. Trois avérotes. Mm-hmm. D'accord? À part ces trois avérotes, on n'a pas le droit de donner notre vie. Qu'est-ce qui se passe maintenant si j'ai une personne qui me dit, tu vas travailler le Shabbat ou je te tue? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller travailler. On a vu dans l'histoire juive, c'est des vraies histoires que je vous raconte, des gens qui ont donné leur vie pour des choses comme ça et qui sont morts. Ça veut dire que c'était du suicide? Non. Parce que, c'est pas parce que la Torah te permet de profaner le Shabbat, dans ce cas-là, que tu dois le profaner. Entre permis et doit le faire, il y a un monde. Donc ça, c'est un monde dans lequel on peut encore gratter beaucoup. Dans le quoi?
Là, je suis obligé.
Il y en a qui n'acceptent pas de le faire.
Oui, là, t'es obligé. Là, t'as pas le choix.
T'as pas le choix. Non.
Y a pas, l'idolâtrie. C'est pas toi qui d'accord? L'adultère et le meurtre. Trois choses là. Ça veut dire, j'explique les trois cas. Si par exemple, on me dit, prostitue-toi à l'idole ou on te tue. Tu dois te laisser tuer. Si on te dit.
Tu dois me laisser me tuer.
Oui. D'accord. Si on te dit, aie des relations avec cette femme, ou bien le contraire, ou bien un homme qui dit à une femme, il dit, tu me laisses avoir des relations avec toi ou je vais te tuer. La femme doit dire, non, elle doit aller jusqu'à la mort. Ça va des deux côtés.
Si elle est mariée,
s'il y a une personne qui me met un pistolet dans la main, et qui me dit, tue l'autre ou je te tue à toi.
Tue-moi.
D'accord? Qu'est-ce qu'on lui dit?
Tue-moi.
Non, je dis pas tue-moi, je me défends quand même, sans pas l'autre jour. Mais.
On peut être dit s'il y a quelqu'un qui est chez nous qu'on doit livrer.
Tu n'es pas moi.
Ok, allez, rabotaille, on s'arrête là pour aujourd'hui. Razak à tous.
En Espagne, avant, pour faire croire que tu n'étais pas juif, ils avaient la datina.